Alors, le speed d'aujourd'hui, c'est un speed tout à fait particulier qui n'était pas prévu au départ et qui s'est imposé en tout cas pour moi et que je vais essayer de vous faire partager. Il est tiré du Ramban Nachmanide sur la Paracha. Il y a deux grands maîtres, le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, c'est le Rambam, et le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman. D'accord? Son père, il s'appelait Nachman. Les deux, ils s'appellent Moshe. Et l'autre, son père s'appelait Maïmon, et lui, il s'appelle Nachman, donc c'est le Rambam et le Ramban, qui ont vécu à des époques. Le Ramban a vécu un peu plus tard, parce qu'il a vécu au XIIIe siècle. D'accord? Il était en Espagne. C'est un des grands maîtres décisionnaires, et un des grands commentateurs, et de la Torah, et du Talmud, le Ramban. Alors, d'ailleurs, quand on parle, pour ne pas vous piéger, un commentaire sur la Guémara, ou un commentaire sur le Chumash, c'est toujours le Ramban. Paradoxalement, Maïmonide, on l'appelle Maïmonide, bon en fait l'expression Maïmonide ou Nachmanide, c'est des expressions un peu universitaires. Ils disent le Maïmonide, mais en réalité, on doit dire Rambam ou Ramban. Donc simplement pour vous aider, si vous voyez un commentaire sur le Chumash ou sur la Guémara, c'est toujours Nachmanide, Ramban. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'écrit de Maïmonide, de Rambam, ni sur le Chumash, ni sur la Guémara. Il a fait que du code de loi et de la philo. Il a fait le Moreh Nevouchim, le guide des égarés, et un immense commentaire, enfin un commentaire, un recueil de lois, le Mishneh Torah, un commentaire sur la Mishnah, mais rien sur le Chumash. Donc, pour ne pas vous mélanger, Chumash égale Ramban. Gemara égale Ramban, pareil. Ramban, pareil. Le Bam, il a fait que de la Halakha, Maïmonide, que de la Halakha. Parce qu'alors on est bon. Donc le Ramban, c'est Ramban, il a vécu en Espagne, puis il a vécu aussi dans le sud de la France, était
Alors,
souvent lié, oui.
Juste une interruption, 10 secondes.
Pardon?
Le Ramban, redites-moi son nom.
Moshe Ben Nachman.
Nachman. Donc, le truc pour s'en souvenir, c'est qu'il est Ben Nachman, Nachman, c'est Ban,
Voilà.
et l'autre, c'est Maimon, c'est Bam.
Voilà, exactement.
C'est M et N.
Voilà, exactement.
C'est une bonne manière de se souvenir.
Ouais.
Mémotechnique.
Oui.
Et voilà, c'était le terme que je cherchais, mais ça m'échappait. Donc.
Alors, je vous ai dit, il vivait en Espagne, en Catalogne, en Castille, enfin, il se baladait tout souvent, et puis dans le sud de la
sud de
France,
France.
voilà, et on l'appelait Bonastruc. C'est son nom, c'est des noms en vieux français. Ramban appelait Moshe Ben Nachman Bonastruc. Bonastruc s'apporta. Bon, vous savez, ils avaient des noms comme ça. Il y avait des rabbins, par exemple, ici, c'est marrant, il disait, il a étudié la Torah chez Rabbi Nathan de Trinquetaille. C'est-à-dire, même les rabbinim, comme nous, on s'appelle Ben Soussan, etc., ils avaient des noms en français, des vieux noms français. Et donc, le Ramban, à part, c'était un grand maître, il avait une yeshiva, etc., il est connu parce que c'est lui qui a fait la disputation de Barcelone. À l'époque, il faisait des bagarres entre les curés. Où les curés convertis, c'était souvent des juifs convertis et les rabbins. Et donc, il y a eu une très très grande disputation qu'on a appelée en 1260, donc il était déjà âgé, et entre Ramban et un juif converti qui s'appelait, comment il s'appelait? Pablo Cristiani. Vous imaginez? Le mec qui s'appelait Pablo Cristiani, c'était un juif converti qui était devenu un frère dominicain. Et il était un érudit, et donc il y a eu cette grande bagarre, et en fait, à la suite de cette grande bagarre, je l'ai déjà raconté, Ramban a gagné, et donc il était poursuivi par les prêtres et par l'église, et donc il s'est sauvé, et les dernières années de sa vie, il les a passées en Israël, à Akko, à Yerushalayim, à Akko. Il était à Yerushalayim, il a construit la grande synagogue de Ramban qui a été détruite au début de l'indépendance en 48, complètement détruite dans la vieille ville. Et qui a été totalement reconstruite maintenant, c'est la grande arche. Si vous vous rappelez, quand vous allez vers le Kotel, il y avait une arche. Avant, il n'y avait qu'une arche, c'est tout ce qui restait. Et maintenant, ils ont tout reconstruit, la chôle du Ramban. Et il a été enterré à Akko. Il y en a qui disent Akko, il y en a qui disent à Hebron, c'est une discussion, il a été enterré. En tout cas, voilà. Ce Ramban, il est très connu pour son commentaire dans le Chumash, qui est un commentaire très original. Et le Khatam Sofer, il a dit que celui qui étudie le Chumash sans le Ramban, c'est comme s'il étudiait la Torah. Comme s'il disait la Gemara sans les Tosfot. Parce que c'est très profond, les commentaires du Ramban, ils sont souvent incisifs, très lumineux. Aujourd'hui, on va avoir un commentaire, entre guillemets, qui a l'air de rien, mais qui pour moi m'a beaucoup parlé. Donc je vais essayer de vous faire partager ça. De quoi ça parle? La paracha de cette semaine nous parle de la visite des trois anges chez Avraham. Après, il y a la tfila de Avraham Avinu pour qu'Hachem ne détruise pas Sodome et Gomorre. Et après, il y a la destruction, il y a la visite des anges chez Lot et la destruction de Sodome et Gomorre. Après, il y a Lot et ses filles, etc., etc. Puis après, la naissance d'Israël, le sacrifice d'Israël. On va être très très riche, la paracha de Vayera. Nous, on va s'attarder sur un point qui est la fuite de Lot lors de la destruction de Sodome. Les deux anges sont arrivés et ils ont dit à Lot, ils lui ont dit, écoute, on est venu pour t'annoncer la destruction de Sodome, d'accord ? Est-ce qu'il y a des gens à qui tu tiens dans cette ville ? Ok, bien que Lot n'était pas un personnage recommandable, puisqu'il avait abandonné la voie d'Avraham Avinu pour aller se réfugier à Los Angeles, pour aller se mettre à Sodome avec toutes les perversions de Sodome. Donc, mais malgré tout, par le mérite de son oncle Avraham, de sa sœur Sarah, puisque c'était sa sœur, et puis par le fait qu'il avait protégé Avraham, etc., en divulguant pas les secrets d'Avraham, Hachem, il a décidé de le sauver, lui et sa famille. Et donc, en réalité, il lui a dit, qui tu as ici? Ben, il dit, j'ai deux filles qui sont fiancées, d'accord? Donc, elles sont avec moi, je les emmène, d'accord? Et j'ai deux autres filles mariées. Donc, il est allé voir ses gendres et ses filles mariées, qui lui ont dit, non, c'est de la blague, Dieu ne détruira pas cet homme, c'est quoi cette histoire-là? Pourquoi il va détruire une ville, etc.? Et point important, il dit le Kli Yakar, parce que c'est marqué Vachem, Vadonai Imtir al Sodom, avec le Shem Avaya. C'est-à-dire qu'il leur a dit, voilà, le bon Dieu va, entre guillemets, le bon Dieu va détruire Sodom. Il dit, mais tu rigoles, le bon Dieu, il ne peut pas détruire, parce que chez nous, on a, dans la tradition, il y a Elohim et Adonai. Et le Shem Avaya, c'est la Midat Rachamim, et Elohim, c'est la Midat Adin. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit détruire, c'est Elohim. Enfin, dans la manifestation d'Hachem pour détruire, c'est pas que c'est deux, c'est que c'est la manifestation de Elohim, la Midat Adin. Or, Rashi dit que les gens mauvais, ils sont tellement mauvais que même la Midat Rachamim, ils la rendent méchante, entre guillemets. Bon, il faut s'approfondir là-dessus. C'est quoi que la Midat Rachamim devienne méchante? C'est normalement, la Midat Rachamim, elle est là pour accorder de la pitié. Mais si quelqu'un, il a vraiment exagéré, eh bien, la Midat Rachamim, parfois, elle agit pour l'enlever de ce monde avant qu'il en rajoute plus. C'est-à-dire que c'est parfois la même chose. La Midat Rachamim d'un chirurgien, c'est d'amputer. Si je me fais bien comprendre. La Midat Adin, c'est la rigueur, la punition. Ouais. Parfois, la Midat Rachamim, elle est dure. C'est-à-dire, la Midat Rachamim, elle dit, monsieur, si je vous ampute pas, vous êtes mort. Donc, l'amputation, c'est parfois la Midat Rachamim. Ici aussi, quand des gens ils sont tellement méchants, il vaut mieux arrêter le massacre et on les enlève, et ça serait la Midat Rachamim. Ce que n'ont pas compris les gendres d'Abraham. Donc voilà pourquoi ils ont dit on s'en fiche, on reste. Donc il a perdu deux filles qui sont restées à Sodome. Et lui, il est parti avec sa femme et ses deux filles qui étaient fiancées. Promises, quoi. C'est là où on est. Et vous connaissez tous ce fameux épisode, le premier pasouk. Vayi ke otsia motam achutza. Ce fut quand il les a fait sortir à l'extérieur, l'ange. Vayomer, il malait dans le navshecha. L'ange, il lui a dit, bien qu'il y avait deux anges, mais il n'avait qu'un seul pour sauver l'autre et l'autre pour détruire, il a dit, il malait dans le navshecha, sauve-toi ton âme. Al tabit acharecha. Ne regarde pas derrière toi. Vous vous rappelez la première ligne?
Oui.
Al ta'amo bechol akikar. Ne t'arrête pas dans toute la plaine. Ahara il malait, sauve-toi à la montagne, peine qu'il savait de peur que tu sois détruit. D'accord? Donc, bon, vous savez tous, après l'épisode extraordinaire, qui ressemble fort à une bombe atomique, puisque ça a été un truc qui a tout démoli, du feu, tout. Bon, c'est la même expression qu'une bombe atomique. Et il lui a dit, ne regarde pas en arrière. Bon. Va tabet ishto me'achora. Et les psukim ne sont pas suivis, mais un peu plus tard, c'est marqué, sa femme, elle a regardé en arrière. Va tein etziv melach, elle est devenue une statue de sel. Chacun connaît la fameuse statue de sel de la femme de l'autre. En général, la femme de Lot, ah oui, son nom c'est Irit ou Idit, d'accord, on connaît son nom. Mais en général, on la prend pour une sinistre pauvre type, bon, déjà elle était la femme de Lot, etc. Et on dit pourquoi elle a regardé en arrière et pourquoi elle a été détruite. C'est ça la question du jour, d'accord. Qu'est-ce qu'elle avait regardé? On lui a dit, c'est dangereux de regarder en arrière, d'accord. Alors est-ce que c'est les rayons, est-ce que tout ce que vous voulez, aucun intérêt, d'accord. Parce que la physique de ce qui s'est passé à Sodome, Hachem, il peut faire une bombe atomique, il peut faire ce qu'il veut, donc. Mais en tout cas, ils ont dit de ne pas regarder en arrière. Et elle a regardé en arrière. Alors la question, elle est, pourquoi elle a regardé en arrière, hein, et pourquoi elle a été punie? Le Ibn Ezra, d'accord, c'est Rabbi Abraham Ibn Ezra, un grand commentateur, il dit, parce qu'elle a été punie, parce qu'elle avait reçu un ordre du... malach, de l'ange, et elle a désobéi. Alors, donc, elle a été punie. Et ça, c'est vraiment une vision, disons, pragmatique. D'accord, mais pourquoi elle a regardé en arrière? Et pourquoi elle a été punie? C'est-à-dire désobéir, d'accord, mais qu'est-ce qu'il y avait de regarder en arrière? Ok, c'est ça notre point du jour. Ok. Alors, le Ramban, il dit comme ça. Vous êtes bon?
Oui.
Ve'inyan, alors, il faut avoir... Non, je vous laisse découvrir. Ve'inyan isura abata, le sujet de cet interdit de regarder, Amar Rashi, le Ramban ici de Rashi, il dit, Ata irshata imam. Ce qu'on a l'habitude de comprendre, c'est que il lui a dit, toi, tu as fait du mal avec eux, puisqu'elle était à Sdom et il devait mal se comporter comme les gens de Sdom. Ou bizrut Avraham ata nitzal. Et c'est par le mérite d'Avraham que tu es sauvé. Encha rashai lirot bepuranutan. Tu n'as pas le droit de regarder leur punition. Ça veut dire que, en réalité, tu ne mérites pas d'être sauvé. Et tu n'es sauvé que par le mérite d'Abraham, donc tu n'as pas le mérite de voir. C'est-à-dire, si Béhémeth, il y a des Réchaïm, et Hachem, il punit des Réchaïm, il punit le Hamas, oui, alors on peut regarder et se réjouir de cette punition. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont fait du mal, et nous, comme la Gemara a dit, on doit se réjouir de la chute des Réchaïm. D'accord, pas les Réchaïm, celui qui n'est pas Shomer Shabbat, on n'a pas le droit. Mais la chute des gens qui nous font du mal, on doit se réjouir. Tandis que Rachid dit, on a dit à la femme de l'autre, tu ne peux pas te réjouir, toi tu as fait la même chose, tu ne mérites ton salut que grâce à Abraham. Donc ça c'est la vision habituelle. Et donc pourquoi elle s'est tournée en arrière d'après ça? Soit par curiosité pour voir ce qui se passe, etc. Et donc on lui dit, mais non, tu n'as pas le droit de regarder ça. Et donc elle a été transformée en statut de sel. Parce que là c'est la vision habituelle. Ve'od bo inyan. Regardez bien, donc le Ramban lui, c'est un Rishon. Un Rishon, ça veut dire, c'est les premiers commentateurs, la porte est ouverte pour tout. Et non seulement la porte est ouverte pour tous les commentaires, ils ont beaucoup de chokhma et beaucoup d'intuition. Et donc, ils partent souvent dans des explications qui s'écartent même, ou des explications traditionnelles, ou de celles de Rashi, ou de celles de Midrash. Ils donnent leur propre interprétation. D'accord? Il dit, ve'od bo inyan, il y a là-bas un autre sujet. Pourquoi elle a été punie? Qui a réot be'avir advar. Parce que voir l'atmosphère d'une chose mauvaise, ou b'chol acholaim anidbakim, ou bien toutes les maladies contagieuses, voir ça, même si on n'est pas proche, yazik me'ot fait du mal. Ve'yad bikem pourrait même te coller à ça. Ça veut dire, il dit, bon, il y aura beaucoup d'extrapolations pour pouvoir comprendre là où je veux aller. C'est qu'il dit, voir le mal, oui, c'est pas bon pour l'homme. Voir des malades, sauf si c'est nécessaire. Mais voir une destruction, voir ça, c'est des choses qui sont nocives pour l'homme. Vechen amachashava ma'em. Même la réflexion dans la punition, la réflexion dans le mal, la réflexion dans la maladie, c'est nocif. Velachen, et c'est pour cela, isager aisha metzora, qu'on enferme le metzora, celui qui a la lèpre. Yeshev badad, et il reste seul. Que, on a bien qu'on ait voulu dire que la lèpre, c'est une maladie contagieuse, mais chacun sait que la vetsara, c'est pas la lèpre. Bien qu'il y en a qui ont voulu dire que oui, mais dans des commentateurs attitrés, mais on sait que c'est pas la lèpre, et c'était pas contagieux. Ah, pourquoi il s'isolait? On a l'habitude de dire, il s'isolait, comme dit Rashi, parce que puisque lui, par le lachanara, il a isolé les gens, alors lui aussi, il devait s'isoler. Mais le Ramban, il dit encore plus que ça. Il devait s'isoler parce que c'était pas bon que les gens, ils voient sa punition, qu'ils voient sa souffrance. Pourquoi? Parce que ça leur fait du mal. Ça fait du mal à un homme de voir la souffrance. Ça fait du mal à un homme de voir la maladie. Et de voir ou d'y réfléchir. Vechen, de la même manière, Neshuché Chayot Ashotot. Ceux qui sont mordus par des bêtes enragées, des bêtes malades. Quelle va choter? Comme par exemple un chien fou, un chien enragé, Vezulato. Kacher iru amaim, ça c'est la Gemara qui dit, quand ils vont voir l'eau, vechol mar'e, ou n'importe quel miroir, yechezu ba'em dmut amazik, ils pourraient voir la forme de la maladie qui a rendu malade ce chien, vishtatu et devenir fou veyamutu. Alors bon, ça, il faut rentrer déjà dans une vision, comme le dit la Gemara, c'est pas du tout la médecine actuelle, mais c'est la même idée. C'est-à-dire que la Gemara dit, pas seulement être mordu par un chien enragé, mais même voir après dans un miroir, on voit des choses, d'accord, qui peuvent te rendre malade. Comme il a dit, si vous voulez, pour traduire un peu, il faut retraduire dans notre langue, d'accord. Ça veut dire que quand tu as imbibé ton esprit de vision négative, de vision de maladie, de vision de malheur, de vision de souffrance, eh bien après, ça résonne dans ton esprit, et même dans un miroir, tu peux voir ça. Tu as l'impression que devant toi, tu auras ça. Merci. Vous me suivez là ? D'accord. Est-ce que vous suivez jusque-là ? Et donc, il avait beaucoup d'analogies, comme celle du Metsora, comme celle du chien enragé, pour nous montrer que la vision d'une chose mauvaise est négative. Shamrou v'sechet yoma, v'izkirou anshe ateva. Et ils ont rappelé ce problème-là, les gens de la nature. Velachen. Et c'est pour cette raison, Aïta ishto shel Lot netziv melar, que la femme de Lot est devenue une statue de sel, be'ota maka, par cette même plaie, be'machashavta, dans sa pensée. Ça veut dire qu'en réalité, elle a regardé, on l'avait dit, et donc le Ramban il dit, il s'oppose à Rashi, il s'oppose à Ibn Ezra, il dit c'est pas du tout qu'on lui a donné l'ordre, tu n'as pas le droit, l'Ibn Ezra il dit c'est un ordre de l'ange, et Rashi dit non tu n'as pas le droit parce que tu n'as pas le droit de le voir le mal où tu as participé, l'Ibn Ezra dit mais pas du tout, on lui a donné un conseil, il dit madame Edith, vous êtes très gentille, vous êtes la femme de Lot, on vous aime beaucoup, ne regardez pas en arrière, c'est pas bon pour les yeux, c'est pas bon pour le moral, c'est pas bon pour, et elle a regardé, pourquoi, à ce stade là il dit pas pourquoi, il dit Kacher Ra'a. Quand elle a vu Gofrid va Melar, le soufre et le sel, Ayored Alem qui tombait sur eux, cette destruction, Minashamaim et Dav Kaba, ça s'est collé à elle. Ça veut dire que la vision du mal et du malheur qui était arrivée, ça l'a atteint. D'accord ? Donc vous voyez, c'est relativement original, on va revenir. Ok ? Donc je redis ça sous une autre forme. Que la vision du malheur, la vision de la souffrance, la vision de la punition, la vision de la maladie, c'est pas bon. Bien sûr que c'est nécessaire de rendre visite aux malades, si on est médecin, si on veut voir sa grand-mère, on peut pas faire autrement. Mais, regarder du malheur, regarder de la maladie, c'est pas bon. C'est pas bon, ça se colle à toi. Ça se colle à toi. Alors, lui, il dit que ce qu'elle a vu, ça s'est collé à elle. Alors, comment ça se colle à elle? Elle est devenue une statue de sel. D'accord? Ça veut dire qu'elle a, c'est comme si elle avait récupérer en elle le malheur qu'elle a vu chez l'autre. Ok ? Sous la forme qu'on veut. D'accord ? 1. C'est en ça que c'est pas bon. 2. Vekarov anilomar. Et je suis proche de dire une deuxième explication. Ki be'ashrit Hashem et harim ha'ele, que quand il a détruit Hashem ces villes-là, aya malach ha'mashrit, il y avait l'ange destructeur, Omed, qui était debout, ben Aretz ou ben Hashamaim, entre le ciel et la terre, Nir'a, qui apparaissait, Bela'av Esh, avec une flamme de feu, Keinyan, ben Malach HaMashrit, comme on voit dans l'ange destructeur, Asherra David, qu'avait vu David, Belachen Asar Lahen Abata. Il dit, tu sais pourquoi? Il fallait pas qu'elle regarde, parce qu'il y avait un ange de la destruction, et donc, elle n'avait pas le droit de regarder l'ange de la destruction. Bon, on va laisser comme ça. Mais il continue en réalité. D'accord ? On est complètement, c'est totalement différent de la première explication. C'est, il n'a pas le droit de regarder l'ange destructeur. Bon, j'entends, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, comment le traduire, mais c'est ça. Et troisième chose, et il ramène, et je pense que sa troisième chose, en réalité, elle est juste la retraduction de la deuxième. Cette histoire de regarder l'ange destructeur. Ou bien Pirkei de Rabbi Eliezer. Dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est un midrash de Rabbi Eliezer à Gadol. Keinyan Azé. C'est le même sujet. Amrou la'em, les anges leur ont dit, Al tabitu l'achorechem, ne regardez pas derrière vous, Sha'arei yardash chinato shalakadosh baruchu, parce qu'elle est descendue, la manifestation divine. Donc c'est le'amtir al Sodom, pour faire pleuvoir sur Sodom à la Mora, Gofrid va'esh, le soufre et le feu. Donc, ce qu'il avait dit l'ange, il dit, il appelle ça la shrina. En réalité, la shrina, l'ange, c'est tout pareil, il n'y a rien du tout. C'est là, on sent qu'il y a une manifestation divine là-dedans. D'accord? Et il dit, Ve'irit ishto shelot. Et donc, quand la présence divine elle est descendue pour détruire, irit, cette madame irit, ishto shelot, qui est la femme de Lot qu'on avait dit, nichmeru rachamea al benotea, elle s'est enflammée sa pitié sur ses deux filles, Anesuot, qui étaient mariées, bisdom. Vous vous rappelez qu'on avait dit en début qu'elle avait deux filles. Et donc, ici, on change totalement notre fusil d'épaule, qu'en réalité, elle ne se retourne pas, comme on a l'habitude de dire, pour dire, ah mince, c'était Los Angeles, j'aimais beaucoup. Non, elle ne se retourne pas pour dire, avoir la destruction. Non, elle se retourne parce qu'elle a pitié des gens qui sont en train de mourir, en particulier à sa famille, à ses filles là-bas. Mmh. Et donc, elle a de la peine. Oui. Ve'habita la choréa, et elle regarde en arrière, l'irhot pour voir. Est-ce qu'elles vont arriver à se sauver de là et de marcher derrière elles? Donc en réalité, c'est par pitié qu'elle est en train de regarder ça, pas par curiosité. Et donc c'est totalement différent. Jusque-là, vous êtes bon?
Oui.
Donc elle regarde derrière et elle a de la peine. Elle a de la pitié. Et alors? Et pourquoi elle meurt? Vera ata achore ashrina. Donc c'est cette dernière phrase qui est la plus ambiguë. Et elle voit l'arrière de la shrina. Venasit netziv melar, et elle est devenue une statue de sel. Alors, elle voit la shrina, c'est ce qu'il a dit avant. Il y avait l'ange ou la shrina, etc. Mais maintenant, il dit, et vous voyez, ça c'est les rishonim. Les rishonim, il y a une règle, que les rishonim, c'est des diamantaires. C'est-à-dire que chaque mot, il est ciselé. Et donc, en général, on doit étudier ça mot à mot. Que chaque mot, il est choisi dans ce qu'ils disent. Et chaque expression, même dans le début, là, quand il a parlé des chiens, il a parlé de César, chaque citation, elle est importante. Donc ça s'étudie, comme la Gemara. Eh bien ici, il dit, elle a vu l'arrière de la Shrina. C'est quoi l'arrière de la Shrina? C'est quoi? Il y a un avant et un arrière. La Shrina, elle remplit le monde. Donc il n'y a ni avant ni arrière. Ok? En réalité, c'est une terminologie. L'avant, le panim, d'accord? Le pnei Ashrina, c'est la midah de rahamim. Le ahore Ashrina, c'est la tribu de miséricorde. Ce qu'on appelle ahore Ashrina, c'est une métaphore pour dire c'est la mitatadine. C'est comme si par exemple, si par exemple je veux vous rencontrer, je viens face à face. Si quand vous venez vers moi, je vous tourne le dos, c'est que je vous montre de l'agressivité. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est ça, ahore ashrina. Et donc en général, c'est une métaphore pour parler de la mitatadine d'Hachem. Et donc cette femme-là, dont la pitié s'était éveillée devant tellement de souffrances, elle a regardé ce qui se passe et elle a vu la Shrina. Elle a vu qu'il y avait la présence de Dieu. Elle a senti. Alors vu, peut-être pas, parce qu'elle n'a peut-être pas la madriga, elle n'a pas le niveau. Mais en tout cas, elle a senti que ça, c'était Dieu. Et elle a vu que là, c'était la Midatadine. Et quand elle a vu que la Midatadine, elle fait ça, elle est devenue une statue de sel. D'accord? Donc, si je veux résumer, alors je ne sais pas si je vous... Mistama, ça a dû vous éveiller quelque chose. Mais que les anges, ils disent, partez, ne vous retournez pas. Lot est ce qu'il fait. Cette femme, elle se retourne. Donc, on a l'explication d'Ibn Ezra, qui était que c'était un ordre auquel elle a désobéi. Bon, c'est sec. On a l'explication de Rashi, qui était qu'elle ne pouvait pas regarder la punition de gens auxquels elle avait participé à ses méchancetés. Très bien, trois. Deux autres explications de Ramban, oui, en résumé. Une, elle dit, on ne doit pas regarder la souffrance. Parce que regarder la souffrance fait du mal. Ça te fait du mal. Ça peut te rendre malade. C'est quoi te rendre malade? Ça peut te rendre fou comme le chien choté. Ça peut te rendre immobile comme une statue de sel. Ça te paralyse. Regarder trop de souffrance. Et la deuxième raison pour laquelle il ne faut pas regarder trop de souffrance, c'est parce que quand tu te rends compte que derrière cette souffrance, finalement, c'est Hachem qui agit. Dans le monde, il n'y a rien qui se passe sans Hachem. Quand tu regardes et la souffrance et cette prise de conscience que c'est Hachem, d'accord, on sait que c'est Hachem. Bien sûr qu'on sait que c'est Hachem qui fait la maladie, qui fait la mort, qui fait la souffrance, qui fait la punition. Mais quand on reste trop là-dessus, eh bien, ça aussi, ça peut rendre fou. Et ça aussi, ça peut rendre malade. Et ça aussi, ça peut tuer. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses sur lesquels on ne doit pas trop accrocher le regard. Et donc bon, pour pas être trop mystérieux, pourquoi je disais ça? Parce que c'est par rapport aux événements qu'on a vécu. D'accord? qu'il y a eu des choses terribles. D'accord ? Et moi, par principe, j'ai rien regardé, rien vu, rien entendu. Je ne veux pas. D'abord, ça me fait trop souffrir. Ça, c'est la phase 1 qu'il a dit. Trop de souffrance, ça rend fou. Il y a un type qui s'est suicidé. Il y a des gens qui sont fous. Il faut des psychologues pour ça. Ça, c'est la phase 1 du Rambam. Voir la souffrance, on l'a dit, ne regarde pas. Ne regarde pas. Ça va te faire du mal. D'accord ? Le Rambam, il dit, elle n'a pas voulu écouter. Voilà. Elle est venue en statut de sel. Et c'est pas une punition. Et c'est ça le chidouche du Ramban par rapport à tout le monde, c'est ça où il se met en... C'est pas que c'est une punition, c'est que c'est ça la nature du monde. Voir la souffrance rend fou. Et la deuxième chose, encore plus dangereuse, c'est que même si, eh bien ça te réveille des questionnements. Et ce réveil des questionnements, ce réveil de la pitié, ce réveil de la miséricorde, quand tu te dis mais pourquoi, mais comment, mais qu'est-ce qu'on a fait, mais comment c'est possible et comment? Eh bien, ça aussi, c'est dangereux, et tu dois te protéger. Ça veut dire, on n'est pas obligé d'aller à Auschwitz. Personne t'a demandé d'aller à Auschwitz. Pourquoi faire? Pour te poser des questionnements, pour voir la souffrance, et te mettre à pleurer, et pour te poser des questions, et comment c'est possible, et c'était des tzadikim, et c'était des ci, et c'était des ça. Eh bien, dans ce qu'on vit, c'est exactement pareil. Alors, bien sûr, il faut trouver le juste milieu. Bien sûr qu'on ne doit pas rester insensible. De toute manière, on souffre, parce qu'on sait ce qui s'est passé. Mais de là à regarder en arrière les choses, ça, c'est pas bien. Et je pense que ça, moi, j'en ai beaucoup parlé. C'est pas de ça, je voulais parler de la Akeda, je voulais parler des anges, etc. Mais quand j'ai vu ça, c'est pour moi, en plus, c'est un conseil, c'est ce que j'ai donné à mes enfants, je leur ai dit, etc. Mais c'est ce qui dit le Rambam. Et c'est ça qui s'est passé avec la femme de l'autre. Les deux éléments pour lesquels on doit rien regarder, c'est celui-là. C'est que c'est mauvais pour ton psychisme. C'est mauvais et on se relève pas de choses comme ça. Et deuxièmement, c'est aussi mauvais pour la Emouna. Et dans les deux cas, on est transformé en statue de sel. Alors après, il y aurait une réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire la statue de sel? Dans la première explication de Rashi, d'accord, c'est normal. Maintenant qu'elle se retourne, elle partage la punition. Là-bas, ça a été... Comment il y a un terme quand dans les bombes atomiques, ça a été... Pas atomisé, ça a été transformé. Il y a une terminologie pour dire...
Oui.
Pour dire le mot... Ça a été silicé ou un truc comme ça. Non, bon. Eh bien, elle a eu la punition. Même tu voulais, on t'a dit non, tu as regardé. Mais les deux explications de Rambam, mais sans ça, vous voyez, si on les lit, en fait, je crois qu'à un autre temps, j'aurais jamais entendu ça. Mais en fait, je les ai relus avec ce que j'avais dans l'esprit. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était exactement ce qu'on vivait. C'est un, c'est dangereux pour l'esprit. Et deux, c'est dangereux pour la Emouna. Voilà. Donc.
David, ça se fait, il y a des morts différentes là. Par exemple, le Maboul, son mort avec l'eau.
Ah oui.
Donc ici, c'est le soufre et le feu. Bon. Ici et ça. On a l'impression que...
Oui, à chaque... Tu as raison. La personne, c'est comme dans la Torah. Tu as ceux qui sont chéaves, ce qu'il a, ceux qui voilà, ne savent pas. Chaque faute, en fonction de la gravité. C'est la Gemara, elle explique pourquoi le Maboul, c'était des fautes des mœurs. Alors, ils ont été détruits comme ça. Et aussi, c'était une faute Ben Adam Nachavero, etc. La Gemara, elle explique... Le Midrash, pardon. Il explique pourquoi... Asdom Bamoura, c'était ça, cette punition. Voilà, Gitchabes, mes chers amis. Alors, juste...